l'homme omniprésent pour le coup sur les unes de magazines, des journaux, c'est Étienne Daoulf. Ça, je l'ai pas raté, en effet. 36 ans après ses débuts, 4 ans après son précédent album, il revient avec Blitz. Alors, Charles Gainsbourg, dans le storytelling, s'est installé à New York. Dao, lui, c'est entre Londres et Paris qu'il vit. Ai-je lu ? C'est moins loin, mais ça dépayse quand même. Comme souvent, c'est l'album d'un autre qui a déclenché l'écriture de Blitz. En l'occurrence, dit Dao, le premier album du groupe américano-britannique Unloved, intitulé Guilty of Love. Donc, j'ai été écouté. C'est un disque récent, sorti en mars 2016. Allez écouter aussi. L'influence, résultat, rock, psyché, influence, alors là aussi, multi-revendiquée de Syd Barrett. On écoute L'étincelle. Alors, au cas où ça aurait échappé à quelqu'un, Étienne Daho a sorti un disque la semaine dernière. Si vous n'habitez pas en France et que vous ne voyez pas toute la presse se couvrir du visage du sexagénaire, hein. Maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Hugo Cassavetti, pour commencer, son nouvel album intitulé Blitz.
Bah, ça va être, je pense qu'on va être dur, ça va être dur de se disputer. Quoi,
bah, qu'est-ce que vous en savez? Bon, avec Christophe, bah, on en reparlera, mais ça va être compliqué. Oui. Enfin, sauf si vous détestez autant cet album que celui de Charles Gainsbourg.
Voilà, ça va être drôle. Voilà, j'apprécie Étienne Daho depuis les débuts, quasiment. Et voilà, paradoxalement, on a l'impression que c'est exactement la même famille. Je pourrais dire que qu'est-ce qui fait la différence de ces deux disques, c'est un peu, ils s'opposent, quoi. C'est qu'il y en a un qui est l'œuvre de quelqu'un qui construit, qui bâtit une œuvre progressivement, qui se suit, qui raconte une histoire, qui se développe, que ce soit l'écriture, son écriture. Musicalement, il a toujours fait ce va-et-vient entre eux. Il y a toujours eu deux pôles chez Étienne Daho, qui est cette passion qu'il a toujours revendiquée dès le départ de Passeur, qui était sa passion d'ado. Bon, on va pas parler de sa préhistoire, mais pour toujours ces mêmes citations, le Velvet, Syd Barrett et ces choses-là, le Pink Floyd, ou Bowie et des gens comme Lou Reed. Et puis d'un autre côté, ce drôle de rapport qu'il a toujours eu au yéyé, donc c'était les parents, on va dire, les Françoise Hardy, les Gainsbourg et tout, et puis ce rôle petit à petit de devenir l'espèce de parrain, oncle bienfaisant de toute la jeune génération, surtout, et là il a ça en commun avec Bowie, si ceux-là le reconnaissent comme le parrain, quoi. Mais il y a quelque chose de ça, ouais. Et en tout cas là, alors je vais juste dire une chose, le précédent album, je le pense qu'il avait réussi, je pense qu'il avait vraiment atteint un sommet, quoi, même s'il y avait
là, le morceau qu'on a écouté,
il y avait des mauvaises chansons dessus,
beaucoup dans la lignée du précédent album.
Sauf que moi, ce que j'adorais, c'est pour ça qu'il avait vraiment réussi dans le précédent, c'était les quatre premiers morceaux où ça démarrait. Il a quelque chose que tout le monde tente et qui est rarissime en France, c'était je vais revenir au nouveau après, mais d'enchaîner un espèce de funk blanc. C'est ce qu'il avait essayé, mais qui était du pur Daho. Il avait essayé avant avec Barry ailleurs, il y arrivait encore mieux. Et là, il y avait vraiment un récit. Je trouve qu'il chantait remarquablement bien. Je pense que c'était la production de Pierrot. Là, la seule petite réserve que j'ai sur Blitz, et j'en ai pas beaucoup, c'est on est beaucoup plus dans, on va dire, un effet. On voit l'intention. Là il affiche clairement ce qu'il veut. Il veut faire... comme lui, par contre, doit écouter son disque, faut aller chez lui. Donc, on y est tous allés. Et là, à part des photos de lui, il voyait que des photos de Syd Barrett et du Pink Floyd. Donc, on a un peu compris où on est. Et c'est vrai, le premier morceau, Les Filles du Canyon, où non seulement il a retrouvé pour introduire le morceau l'ami de Syd Barrett de l'époque, qui est encore Dougie Fields. Et après, le morceau, on dirait une réécriture d'Astronomie dominée du Pink Floyd. C'est le même riff à peu près, mais voilà, forcément, ça ne peut que me plaire. Ce qui me gêne un peu moins, c'est qu'il a mélangé ça. Toute cette tendance qui est venue avec Tame Impala, tous ces groupes-là, qui est d'amener ce psychédélisme des années 60 qu'il a imprégné, à lui donner cette patte moderne, on va dire, un peu teintée d'électro et choses comme ça. Je trouve que c'est quand même, dans l'ensemble, remarquablement réussi. Mais voilà, ma seule réserve, elle est là, c'est que j'entends l'intention, alors qu'avant, j'entendais juste Daho qui se libérait de quelque chose qu'il avait fait après Le Condamné à mort. Je trouve qu'il était, il y avait un souffle vraiment incroyable sur l'album d'avant. Là, je retrouve le Daho fan, passeur, qui ne parle que de choses que j'aime. Donc, et il continue à être mystérieux dans son écriture. Il donne tout en se cachant. Voilà, tout ce qu'on a toujours aimé chez lui, quoi.
Pascaline Podevin sur ce nouvel album de Étienne Daho.
Non, mais moi, alors, contrairement à vous, moi, je suis pas allée l'écouter chez lui. Je l'ai écouté.
Moi non plus.
Comme tout le monde, le jour de sa sortie.
Moi aussi.
Du coup, c'était...
On était pas ensemble, pourtant.
Pourtant, non. Voilà. Mais du coup, c'était un petit peu intimidant parce qu'effectivement, la couverture médiatique était juste énorme. Il était juste partout. Et là, on sent vraiment, voilà, on a affaire à un monument. Et du coup, un monument où on ne sait pas trop par quel versant l'aborder. J'avais déjà l'impression de savoir beaucoup sur le disque avant même de l'écouter, donc ce qui est un peu déstabilisant. Et du coup, en voyant tous ces interviews sur effectivement Syd Barrett, le fait qu'il soit allé dans son appartement, on sait effectivement, on connaît son histoire de passeur. Mais j'avais peur d'un disque très fétichiste un peu. Je me disais, si c'est un disque qui me parle de références que moi ou d'autres n'ont pas ou n'accrochent pas forcément, bon... J'avais un peu peur de ça. Et ensuite, en l'écoutant, déjà, j'ai trouvé que c'était beau, effectivement. La production, le psychédélisme, c'est premier. C'est pas un disque de fétichiste, c'est très beau, c'est bien digéré, bien fait. Et c'est, voilà. Il y a une autre chose que je me suis dit, c'est que Daho, au fil de son parcours et de ses albums, il y a toujours une chanson, qu'on soit fan ou non, qu'on apporte avec soi, en fait, qui vous suive comme ça, qui reste dans votre sillage. Et là, je me suis demandé un peu quelle chanson ça allait être sur ce disque. J'ai eu du mal à la trouver au début. Voilà. Peut-être parce que mon inclination personnelle va plus vers les chansons de Dao, un peu plus en ligne claire. Et là, celle qui est comme ça dans cet album, c'est Les Flocons de l'été, qui est effectivement l'arbre qui cache la forêt, parce qu'elle ressemble pas du tout au reste du disque. Elle est extrêmement touchante. Ça parle du moment où il avait des problèmes de santé, qu'il était à l'hôpital. Donc je me dis, voilà, c'est un album très beau, qui m'accompagnera peut-être moins, avec des chansons qui m'accompagneront pardon, peut-être moins que par la suite. Mais la façon dont, justement, il s'est réapproprié ce psychédélisme pour en faire quelque chose, un portail, comme il l'a dit dans la première chanson, une porte vers un autre paradis pour transcender la réalité, parce qu'on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vraiment un album de transcendance. Bon, bah, c'est beau, voilà.
Voilà, pour une fois, je vais me permettre de parler avant Christophe Rant, parce que j'avais noté ça. Est-ce que c'est mal si je dis que j'aime moins ce disque que le précédent, qui était ma première réaction en découvrant cet album vendredi dernier, comme vous, Pascaline? Parce que moi, je suis quand même moins convaincu par les morceaux, disons rock, enfin rock, influence Velvet ou Pink Floyd, que par les ballades que je trouve très 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 belles, d'où le choix de morceaux qu'on a diffusé. Il y en a d'autres, hein, plusieurs, Les Baisers Rouges ou le très très beau Nocturne qui clôt l'album. Il y a aussi quand même Les Cordages de la Nuit qui fait plus, qui résonne plus avec les 10 années 80, le côté ritournelle entêtante que Dao sait aussi extrêmement bien faire. Moi, j'aime infiniment la voix de Dao. Alors, j'ai lu dans les très nombreux entretiens qu'on avait souvent critiqué sa voix. Je trouve ça...
aujourd'hui.
Je trouve ça dingue parce que voilà, il a une empreinte et une signature vocale. Il a velouté.
C'est assez marrant parce que les gens disent il a pas de voix et pourtant c'est quelqu'un qu'on reconnaît à la première seconde. Il a une voix. C'est le principe même d'avoir une voix, absolument, qu'elle soit puissante ou pas. À partir du moment où on la reconnaît.
Voilà, c'est plus difficile parce qu'on vient de le passer après Charlotte.
Mais le fait est que j'aime pas sa voix dans tous les registres. Effectivement, Les Filles du Canyon qui ouvrent l'album, je trouve que c'est pas ce qui lui va le mieux. Voilà. Bon, j'ai parlé avant Christophe Comte parce que je ne peux pas quand même mentionner, même si on fait pas la publicité de nos collaborateurs, la sortie du nouveau livre de Christophe Comte sur Dao. Ça s'intitule Dao en majuscule, c'est assez simple. Il y avait déjà eu un premier livre en 2008, donc on sait que c'était assez obsessionnel chez vous. Donc avez-vous la moindre distance critique cet album, dont la genèse est racontée dans le dernier chapitre, comme il se doit, de ce livre?
Oui, je peux tout à fait en avoir. Après, j'ai beaucoup de réserves dans la carrière de Dao sur certains choix, certains albums, mais je trouve que depuis quelques années, depuis en gros l'invitation, je trouve que on peut difficilement...
Il a retrouvé une grande forme. Hein.
Voilà, et puis c'est, encore une fois, c'est quelqu'un, on se dit, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour Charlotte, il ne fera pas son Love on the Beat. C'est-à-dire que plus il va, et plus je trouve que ses albums sont riches, sont à la hauteur de l'ambition qui s'était fixée au départ. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Syd Barrett, il est passé par beaucoup d'étapes. Et là, il est dans une transformation quand même de cette espèce de passion originelle pour Syd Barrett, qui, je trouve, fonctionne très bien parce qu'il n'est pas du tout dans le réplica de Pink Floyd. Moi, j'ai pas tellement trouvé le côté astronomie de mieux. Quand j'ai écouté la première fois Les Filles du Canyon, ça m'a fait penser à autre chose, à un disque de David Axelrod avec les Electric Prunes, enfin, comme ça, un peu messianique et mélangé avec du psychédélisme. Mais bon, lui, alors, il m'a dit ah, pas du tout, je me souvenais pas de ce disque. Mais je trouve qu'il y a ça. Et puis, ce que ça raconte aussi est quand même assez fort parce que ça parle de ses filles. Alors, elles sont plein dans l'actualité là, parce que c'est la famille. C'est la famille Manson, mais en même temps, ça parle du djihad, de ces femmes qui s'engagent. Il y a quand même quelque chose dans ce texte qui est très très fort, je trouve, pour attaquer l'album. Ensuite, il y a le morceau quand même sur sa sœur, le jardin, sa sœur qui est morte il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, et qui là se trouve dans ce jardin entouré de parfums et tout ça. Je trouve ça très beau de faire une chanson sur le deuil. On parlait tout à l'heure de Charles Gainsbourg avec ses chansons sur sa sœur et sur son père. Là, on est dans un registre totalement inverse. Quelque chose de très efflorescent, très beau et en même temps très vivant. Ça pour parler du rapport entre les textes et la musique qu'arrive à créer Dao aujourd'hui. Moi, j'ai pas vraiment de réserve sur ce disque, mais j'en aurais si vraiment il m'avait déplu. Hein. C'est vraiment pas une question de... Je suis pas dans le service après-vente.
Je vous taquine.
Il y a quelques morceaux que je trouve un peu plus faibles. Mais alors, par exemple, Les Flocons de l'été, ce qui était pour moi un très mauvais choix de single.
Il a une cohérence dans l'album.
Donc quand il arrive dans l'album, il tombe au très bon moment. Je trouve que c'est un album qui est extrêmement bien
construit.
Dans les premières versions qu'on avait écoutées, le jardin était en deuxième. Là maintenant, il est en troisième. Il y a avant Chambre 29. les deux ont été inversés. Je trouve que c'est assez, assez malin. Chambre 29.
On entre dans le secret, hein. Vous avez vu dans les coulisses, là.
Mais voilà. Mais
non, c'est important.
Mais oui, parce qu'on a écouté des versions qui étaient un peu en chantier, pas terminées, parce qu'il faut voir quand même que Dao est obsessionnel à ce point, qu'il a terminé. Moi, je me souviens être allé début juillet, il est encore en train de faire des voix et tout ça. Donc, c'était vraiment. C'est à la fois quelqu'un qui va très vite quand il a l'inspiration, ce qui a été le cas sur ce disque-là pour l'écriture et même l'enregistrement, mais qui après peaufine des détails que lui-même, lui seul entendra. Mais bon, voilà.
Alors, tout petit incise encore, ouais, parce que le temps file, hein, il y a Forever Pavot.
Dao lui-même revendique une sorte de parenté avec Eden, qui est un peu son album fétiche et tout. C'est vraiment ce que je l'entends moins personnellement, et je trouve juste, c'est souvent ce que font les gens, et ce que j'aime bien, c'est on a toujours l'impression qu'à un moment où ils sont arrivés à une certaine maîtrise ou maturité ou quelque chose, pour prendre ce mot que vous aimez tant, revisite ce qu'ils faisaient avant, mais avec l'apport, parce que Chambre 29, on a l'impression que c'est un morceau qui aurait presque pu être sur pour nos vies martiennes, quoi, exactement. Ouais, oui, et c'est drôle ce que vous disiez, Arnaud, je trouve qu'effectivement, c'est toujours la limite avec Dao, c'est que Dao n'a jamais été, d'ailleurs lui-même, il s'est toujours défini, c'est pas pour rien, comme pop, il s'est fait le champion de ça, il n'a jamais été très rock. Non. C'est ce qui d'ailleurs m'avait un peu gêné sur la tournée du dernier album, où là, il a joué beaucoup plus rock, et ça lui va un peu moins bien, quoi, de ce besoin de se revendiquer.
Son album que tout le monde trouve le moins réussi, c'est Réévolution, qui est un album assez rock. Et il se trouve que lui, c'est un de ses préférés. On a appris ça récemment dans une interview. Il trouve qu'après
d'où la pochette, où on dirait le premier soft sell.
Allez, je vous interromps parce qu'il y a un troisième sujet qui arrive. Et si Patrick ne peut pas le temps de dire son amour pour Forever Pavot, ça va mal se passer. Blitz, Étienne Dao chez Mercury. La liste des concerts, je ne vous la donne pas parce que ça commence le 11 juin à Lyon, mais il y en a jusqu'au 21 décembre 2018 à Rennes, forcément, pour aller entendre Étienne Dao.